Deutsche Welle. Droits et libertés.
Dans ce magazine, d'abord, nous parlerons de l'Éthiopie, où Angela Merkel s'est rendue cette semaine pour assister à l'inauguration du nouveau siège de l'Union africaine, mais où la répression de toute contestation, notamment celle des Oromos, se fait de plus en plus violente. Vous entendrez notamment le témoignage d'un journaliste éthiopien qui a fui le pays après avoir connu les prisons éthiopiennes de l'intérieur. Et le second sujet plus positif, celui-là, c'est la victoire des hommes et des femmes en Pologne qui considèrent que le droit à l'avortement doit être sauvegardé coûte que coûte. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Depuis plusieurs mois maintenant, la contestation se fait plus pressante en Éthiopie. Nous avons déjà parlé des revendications du peuple Oromo, majoritaire dans la région autour d'Addis Abeba, qui réclame plus de droits et une meilleure représentation dans l'appareil politique. Les protestations ont pris de l'ampleur en novembre 2015 contre un plan d'urbanisation de la capitale qui prévoyait de rogner sur le territoire des Oromo. La répression aussi de ces manifestations se fait plus forte. Des centaines de personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis le début de l'année. Le régime autoritaire en place a également procédé à des arrestations par dizaines pour étouffer toute voix discordante. Les violations des droits de l'homme sont légion en Éthiopie et Tesfalem Merago, journaliste éthiopien du collectif Zone 9, en a fait les frais. Il a été incarcéré en 2015 avec trois de ses collègues suite à des publications qui n'ont pas eu l'heure de plaire au pouvoir en place. Ils ont été reconnus coupables de, je cite, « travailler pour des organisations étrangères se réclamant de la protection des droits humains » et d'avoir reçu de l'argent pour inciter à la violence publique via les médias sociaux. Ils ont ensuite été condamnés pour terrorisme, un chef d'accusation plutôt vague, vous en conviendrez. D'autant que leurs avocats n'avaient pas été prévenus de l'audience et que les membres du collectif Zone 9 n'ont pas pu être assistés devant les juges. De passage dans nos locaux, Tesfalem a tenu à témoigner.
Comment décrire la situation là-bas? C'est horrible. Les prisonniers sont entassés. Dans cette prison, il y a environ 3000 détenus répartis en différentes zones. Et dans la cellule où j'étais, nous étions 150. Il n'y a aucune hygiène et le traitement réservé aux prisonniers politiques est bien différent de celui des droits communs. Nous avons été relâchés 2 semaines avant la visite de Barack Obama en Éthiopie.
Pendant 3 mois, Tesfalem n'a pu avoir aucun contact avec ses proches. D'ailleurs, durant les 2 premiers mois de sa détention, il n'a vu personne, hormis ceux chargés de mener les interrogatoires. C'est seulement plus tard, après avoir été transféré dans une autre prison, que les membres du collectif Zone 9 ont pu communiquer et recevoir de la visite de leur famille. Et pour certains détenus, le droit de visite est restreint à la famille proche et à 10 minutes par visite. Début septembre, un incendie a éclaté dans la prison centrale de Kilinto, à Addis Abeba. Cette prison est parfois surnommée l'Auschwitz éthiopien, en référence au camp de la mort nazie. Depuis la proclamation de la loi antiterroriste en 2009, des individus peuvent être jetés en prison avant même d'avoir été jugés. Beaucoup de journalistes et de prisonniers politiques atterrissent ainsi à Kilinto. Et Tesfalem Merago aussi y est passé. Au moins 33 personnes ont été tuées dans l'incendie du mois de septembre, dont l'origine n'a toujours pas pu être déterminée.
Ça a été un choc pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle tragédie survienne dans un quartier hautement sécurisé parce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance partout, de nombreux gardes. Dans cette zone, les détenus n'ont même pas le droit de faire la cuisine ou de fumer. Quand j'ai entendu parler de cet incendie accidentel, moi j'étais en Allemagne. Alors j'ai contacté mes sources sur place et ils m'ont dit qu'il y avait eu des coups de feu. C'est troublant. Je connais les lieux. C'est très difficile d'avoir accès à du feu là-bas. Alors comment les prisonniers ont-ils pu en faire? La police continue de dire que les prisonniers qui sont morts ont péri dans les flammes accidentellement.
Tesfalem Merago ne comprend pas le silence relatif des organisations de défense des droits de l'homme, de défense des journalistes aussi, mais aussi des gouvernements occidentaux sur la situation en Éthiopie.
They are not tolerating any dissent voice. So
Les autorités ne tolèrent aucune voix dissidente. Quand quelqu'un est arrêté, cela suscite une petite vague de protestation, mais qui retombe bien vite et les gens oublient. Mais les prisonniers restent en prison. Les organisations internationales devraient s'occuper de procurer une défense aux journalistes et aux autres prisonniers politiques et protester contre les mauvais traitements. La presse se porte très mal en Éthiopie. On n'a pas un seul quotidien privé dans le pays, pas une seule chaîne de télé privée dans un pays de 90 millions d'habitants. Et le gouvernement essaye de museler l'Internet et les médias sociaux. Les organisations internationales doivent accentuer la pression sur le gouvernement et travailler avec des avocats.
And more campaign and advocacy should be done by the international organizations.
Le service Amharic de la Deutsche Welle pour l'Éthiopie est lui aussi souvent brouillé par les autorités. La semaine dernière, le gouvernement éthiopien a même lancé une campagne de dénigrement de l'un de nos collègues de Bonn en affichant sa photo et en le citant hors propos lors du journal télévisé de la télévision d'État, la seule télévision du pays. Il y a moins de deux semaines, de nouvelles violences ont éclaté à Addis Abeba lors d'une bousculade en marge d'une fête au Romo. Des manifestants avaient repris le signe devenus célèbres depuis les Jeux Olympiques. Ils ont croisé leurs bras au-dessus de leur tête contre l'oppression. La situation a dégénéré entre jets de projectiles sur les forces de l'ordre et répliques à coups de gaz lacrymogènes. Le gouvernement a recensé officiellement 52 morts. Mais les organisations de défense des droits de l'homme estiment que les morts se comptent par centaines. Un blogueur du collectif Zone 9 a lui aussi été interpellé. Le militant éthiopien Geresu Tufa est atterré. Il suit la situation depuis son exil aux Pays-Bas.
Je suis extrêmement inquiet de voir cette escalade de la violence, à moins que le gouvernement mette un terme à ces tueries, mais il continue de gouverner par la force. Alors les gens manifestent et la répression continue. Le gouvernement crée une spirale de la violence. Il doit arrêter de tuer les gens et devrait plutôt les écouter. Il faudrait aussi que le pouvoir accepte la proposition des Nations Unies de laisser enquêter des organisations indépendantes sur le terrain.
L'Éthiopien Merga Jonas Bula appelle lui aussi de ses voeux la restauration d'un contrat social entre le pouvoir et les citoyens.
Many Oromo people, politicians, citizens, or I would say students, have been fleeing the country, not because of economic purpose, I would say.
Beaucoup d'Oromo, de politiciens, d'étudiants ont fui le pays. La plupart d'entre eux fuient les persécutions. Cela a renforcé la crise migratoire. De nombreux Oromo sont morts en Méditerranée. Certains meurent dans le désert égyptien. Les racines de la crise dans cette région, mais aussi en Europe, c'est la répression au pays, la façon dont le gouvernement traite la population.
La répression à home, back home, the way the government is handling its own citizens.
La Pologne fait partie des pays les plus restrictifs en Europe en matière d'avortement. La loi ne l'autorise que dans trois cas, risque pour la vie ou la santé de la mère, examen prénatal indiquant une grave pathologie irréversible chez l'embryon, et grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Mais un projet de loi voulait durcir la pénalisation de l'avortement et ne le permettre que s'il était destiné à sauver la vie de la femme. Le texte prévoyait une peine de prison maximale pour la femme qui avorte de 5 ans de prison, tout en permettant au juge de renoncer à la punir. Pendant des semaines, les militants anti-avortement ont cru qu'ils allaient emporter la manche en Pologne. Mais face à la mobilisation populaire, même les députés du parti au pouvoir, proches de l'Église catholique, ont voté à une grande majorité contre un renforcement de la pénalisation pour les femmes qui avortent. Le revirement s'est passé beaucoup plus vite que prévu. Et elle a beau avoir milité contre l'interdiction totale de l'IVG, la députée Johanna Scheuring-Wilgus du parti Nowoczesna, la modernité, reste prudente.
En fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas que le parti au pouvoir a changé d'avis. Non, ils ont simplement remarqué qu'ils ne gagneraient jamais contre les femmes. Contre les femmes qui se rebellent quand on attente à leurs droits. Le président du parti, Jarosław Kaczyński, n'avait pas vu venir ce mouvement.
Le parti que préside Jarosław Kaczyński, c'est le parti Droit et Justice, une formation très conservatrice. Au début de l'année, il s'était d'ailleurs clairement exprimé sur le projet de loi.
Je suis catholique, alors ma position est claire. Je signale qu'il n'y aura pas de consigne au sein du groupe parlementaire, mais je suis convaincu que la majorité de nos députés soutiendront le projet de loi, peut-être même tous.
Mais voilà, Jarosław Kaczyński a changé d'avis au vu des protestations massives des semaines dernières. Au nom du droit des femmes à disposer de leur corps, les conservateurs polonais ont donc dû plier.
Nous avons affaire à un gigantesque malentendu. Nous respectons au plus haut point ceux qui ont soutenu ce projet de loi. Après avoir observé la situation sociale, nous sommes simplement parvenus à la conclusion que le projet de loi et les réactions qu'il pourrait entraîner iraient dans le sens inverse de ce qu'avaient pour objectif les promoteurs du texte.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Henryk Jarczyk, Martin Achikowski et Mohamed Negash pour les sons. Pour nous écrire, une seule et même adresse, français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.